Bonsoir à toutes et à tous. Faut-il rendre le masque obligatoire même à l'extérieur? Une option suivie par plusieurs villes et recommandée par le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui constate une augmentation de l'activité virale dans certains endroits de notre pays. Au point que la Belgique a décidé de placer l'Île-de-France et les Pays de la Loire en zone orange, invitant ses concitoyens revenant de France à se faire tester et à s'imposer une quatorzaine. Partout en Europe, on redoute une reprise de l'épidémie. Alors plus que jamais, le vaccin semble être notre seul espoir de venir à bout de ce coronavirus. Peut-on l'espérer pour l'année prochaine, voire dès cet automne? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulée ce soir « Masque obligatoire ». Même à l'extérieur, avec un point d'interrogation. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Karine Lacombe. Vous êtes chef de service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Bonjour. Jean-Daniel Chiche, vous êtes professeur de réanimation à l'hôpital Cochin à Paris. Vous êtes président de la fondation 101 qui vise à améliorer la réanimation. Patrick Peloux, médecin urgentiste, président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. Et enfin, Catherine Hill, épidémiologiste. Vous avez longtemps exercé à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Karine Lacombe, on va peut-être commencer avec vous par un état des lieux. Où en est-on quand Olivier Véran constate une augmentation de l'activité virale dans certains endroits de notre pays? Qu'est-ce que ça veut dire? On a une carte voilà, qui va peut-être nous aider. Est-ce que vous pouvez nous la commenter? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte?
Bien, cette carte montre quand même que dans la grande majorité, le territoire français est vert. Ce qui veut dire que la prévalence est relativement basse. Donc, je rappelle juste que la prévalence, c'est le nombre de cas à un instant donné, sur une période donnée. Et on voit bien que c'est plutôt vert partout. Alors, on sait qu'il y a le département de la Mayenne qui est en rouge, où il y a eu beaucoup de cas qui ont été diagnostiqués ces derniers jours. Et en dehors de cette zone-là, voilà, il y a un petit peu d'orange. Donc, il faut suivre hein, une carte de prévalence. Ça doit aussi être... alors, une prévalence est quelque chose d'assez statique, mais il faut aussi regarder semaine après semaine comment évolue la dynamique. À partir du moment où les territoires sont verts, ça veut dire que c'est très stable d'une semaine à l'autre.
Mais quant donc, à Quiberon, on est obligé de prendre des mesures au Sable d'Olonne, etc., de fermer les plages. Quand on s'aperçoit que chez les jeunes... le taux de contamination repart nettement, ça veut quand même dire que la situation est plus inquiétante que de le laisse penser cette carte.
Exactement, donc la carte, c'est une moyenne. Après, localement, il peut y avoir des groupes de transmission qui sont plus importants que dans d'autres. Par exemple, à Quiberon, on a bien vu que par strate d'âge, les jeunes, hein, quand on regarde en fait toutes ces données de prévalence par strate d'âge, on se rend compte que globalement, la prévalence est très faible, mais dans certaines strates d'âge, et en particulier les strates des jeunes, eh bien, le nombre de cas est plus important. Et on va avoir ce soir les données de la semaine qui viennent de s'écouler de Santé publique France, et a priori, ça va confirmer ce que l'on sentait déjà ces derniers jours. C'est-à-dire qu'actuellement, la population la plus à risque d'être infectée et de transmettre sont les personnes d'âge jeune, je crois, inférieur à 40 ans.
On est en train de constituer un bon réservoir là, pour contaminer les plus âgés, c'est ça que vous êtes en train de dire?
Alors, effectivement, ça peut être un risque et c'est pour ça qu'il est important de dépister, isoler les personnes qui sont porteuses du virus.
Alors, vous n'avez pas parlé du masque. Vous n'avez pas dit qu'il est important de porter un masque, puisque c'est la question du jour. Le masque à l'extérieur, vous en pensez quoi?
Alors, déjà qu'on porte bien le masque à l'intérieur. On a vraiment montré que les clusters, les groupes de transmission, c'était vraiment dans des espaces qui étaient clos et confinés. Dans les espaces extérieurs, vous savez que, peut-être qu'on va en reparler tout à l'heure, mais on a un gros mode de transmission qui est par les gouttelettes de salive un peu grosses. Et puis ensuite, on a montré qu'il y avait un petit contingent de transmission par l'aérosolisation, c'est-à-dire par des gouttelettes qui sont très fines et qui restent plus en suspension dans l'air. Quand on est dans un endroit clos, peu ventilé, ces petites gouttelettes en suspension peuvent facilement contaminer. Quand on est dans un endroit ouvert où il y a forcément du vent et qu'on est dans un endroit qui n'est pas clos par définition, eh bien, cette partie de transmission par l'aérosolisation n'existe pas. Probablement extrêmement peu, à moins qu'on soit dans un endroit très très dense et très une grande promiscuité. Donc porter le masque partout à l'extérieur, à moins qu'on veuille transmettre un message de cohérence, à ce moment-là on dit tout le temps, dans toutes circonstances, on porte le masque, ce qui moi, personnellement, me semble difficile à tenir sur le long terme. Qu'on donne déjà un message très clair dans les endroits où vraiment on a un maximum de transmission, c'est très important. Et puis ensuite, à l'extérieur, pour ma part, je pense qu'en dehors des endroits de très grande promiscuité, il faut aussi qu'on apprenne à respirer.
Patrick Pelou, le portez-vous, le masque, vous, ouais. à l'extérieur ? C'est quand même, c'est vrai que c'est désagréable à porter, hein. Surtout quand il fait chaud.
Écoutez, c'est désagréable. Nous qui travaillons à l'hôpital, ça fait 35 ans qu'on porte le masque régulièrement quand on travaille et sur certaines circonstances. Bon, voilà, je pense que c'est la meilleure protection. Je pense qu'il faut un message clair. C'est pour ça que nous, on a pris position pour dire qu'il faut le porter à l'extérieur et tout le temps de manière à avoir un message clair pour la population. Maintenant, c'est aux politiques de prendre cette décision, de manière à protéger la population et en effet d'avoir le message le plus clair possible. Parce qu'en effet, même si l'analyse scientifique est judicieuse, minutieuse, pour le grand public, voilà, pour le grand public, il faut quelque chose de fort. Et vous le rappeliez avec votre carte notamment, il y a des zones où, en effet, il y a des foyers qui se multiplient et, en fait, les arrêtés qui sont pris par les maires est de dire on porte le masque partout. Donc, c'est un peu difficile. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut absolument anticiper le truc qui ferait que, d'un coup, on ait une flambée comme ça, avec ouais. notamment les jeunes qui transmettraient, etc. Il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre ça parce que, de toute façon, c'est quasiment impossible de reconfiner le pays comme on l'a fait parce qu'on serait totalement à genoux et ça poserait tellement de problèmes, peut-être pire que le coronavirus socialement. Donc, il faut absolument éviter ça. On n'a pas beaucoup d'armes. On a les tests, on a le gel hydroalcoolique, on a la distanciation physique et on a les masques. Utilisons les masques. Alors là, c'est sûr que là, on est ensemble. On devrait porter le masque, mais on a les distanciations physiques qui est voilà, un mètre. Donc, d'un coup, évidemment, ça évite à tous ceux qui vont tweeter.
Ce n'est pas la première fois qu'on se pose la question, qu'on fait la culpa.
Voilà, mais disons que là, moi, je crois que le masque est important à l'extérieur et c'est la meilleure assurance qu'on ait pour protéger la population.
Catherine Hill, voilà, il faut des messages clairs. Face à une épidémie, vous qui êtes épidémiologiste, qui est extrêmement contagieuse, enfin, je veux dire, c'est un virus. On ne le soupçonnait pas contagieux à ce point. C'est-à-dire deux jeunes qui discutent, qui prennent un verre.
Oui,
il
est assez contagieux parce que le nombre de reproductions de base, c'est 3. C'est beaucoup moins que la rougeole, mais c'est plus que pas mal de virus. Donc, c'est assez contagieux. Et la deuxième propriété qu'a ce virus, c'est que les gens sont contagieux avant d'avoir des symptômes ou sans avoir de symptômes. Et ça, c'est la vacherie. Et pour ce qui est du masque...
Ça, c'est la vacherie, parce que beaucoup, en général, c'est quand on est malade, quand ça se voit qu'on est contagieux.
Évidemment. Et le SRAS précédent... C'était pas comme ça. Ebola, c'était pas comme ça. Si ça avait été comme ça, ça aurait été quelque chose d'épouvantable. Et là, c'est ça la vacherie. Et pour le masque, les Anglais ont une façon de s'exprimer très bonne. C'est mon masque te protège, ton masque me protège. Et ça protège l'autre.
Il est en plus asymptomatique. Oui. Complètement invisible chez la moitié des jeunes. Maintenant, on commence à avoir des statistiques. Plus de la moitié des jeunes, c'est ça ?
On pense que la moitié des contaminations viennent de gens qui sont asymptomatiques. En règle générale, les gens deviennent contagieux à peu près le lendemain de la contamination. Ils ont des symptômes au bout de 5 jours et la plupart sont débarrassés du virus 5 ou 6 jours après. Ça va très vite.
Et la moitié sans s'en être rendu compte.
Et ils ont contaminé autour d'eux. Ouais. Et la stratégie de trouver les foyers en retrouvant que cette personne-là connaît cette personne-là et ça fait 3 cas dans les 7 jours, c'est une stratégie qui... est une passoire totale. Il y a plein de contaminations qui échappent. Donc, le virus continue à circuler dans le pays. Donc, ça, c'est dangereux.
Jean-Daniel Chiche, ce matin, il y avait un reportage assez émouvant sur France Info qui montrait tous ces soignants dans l'Est, dans le Grand Est, à Mulhouse, qui, en fait, passaient un été, se relâchaient et semblaient réaliser l'horreur qu'ils avaient vécue. Si on fait tout ça, c'est parce qu'on ne veut pas revivre ce qu'il faut appeler un cauchemar, le cauchemar que vous avez vécu dans les hôpitaux en mars-avril, et que psychologiquement, presque, vous ne pourriez pas revivre ?
Alors, je pense qu'effectivement, personne n'a envie de revivre ce que nous avons vécu au cours des derniers mois. Et je pense qu'il ne faut pas être catastrophiste et que la probabilité de revivre ça est extrêmement faible. On est parti d'une situation où nous n'étions pas préparés, où le système de santé était totalement à genoux, où on manquait d'informations, de matériel... où on a été obligé d'ouvrir en catastrophe des lits de réanimation partout, mais globalement pour finalement traiter deux gros foyers, hein, le Grand Est, la région parisienne et une partie de la région parisienne. Il y a des zones de France qui ont vu très peu de coronavirus au cours de la première partie, et où il y avait une espèce d'incertitude qui était de se dire est-ce que demain on va encore y arriver ? Et ça a eu un effet... majeur. Et pour rebondir sur ce que disait Patrick il y a quelques minutes, commencer à travailler déguisé comme des cosmonautes être obligé de s'habiller, de se déshabiller à chaque fois que vous rentrez, que vous sortez dans une chambre, ça a eu un effet absolument majeur. Et au bout d'un moment, on a vu même la compliance avec ces mesures-là. Dans les services de réanimation, on a vu que le personnel n'en pouvait plus. Alors, si vous nous dites maintenant, portez le masque jour, nuit, dedans, dehors, bon courage, c'est peut-être clair, mais ça ne marchera pas.
Pourquoi ?
Ben, ça ne marchera pas tout simplement parce que c'est au-delà de ce que l'être humain peut faire. Mmh. Et en plus, les gens, je pense qu'il ne faut pas prendre des gens pour des imbéciles. Je pense qu'on peut expliquer, on peut très bien expliquer aux Français, comme d'ailleurs on a commencé à le faire il y a quelques jours, que, bah oui, il faut vraiment porter le masque dans les espaces clos. D'abord, on a dit à partir du 1er août, puis ensuite, on a dit, bah non, il faut probablement accélérer. Et bien, si on fait ça déjà très bien, si on fait ça en utilisant convenablement les masques, et je pense que vous sortez dans la rue, vous voyez bien que c'est déjà pas simple, ben ce sera déjà très, très bien. Et je pense que ça va continuer à faire en sorte que cette carte, qui est quand même relativement verte, reste verte. Moi, je suis rentré de congé dimanche. J'ai retrouvé dans mon service de réanimation 3 patients Covid qui avaient le Covid depuis le mois d'avril. Aucun nouveau cas de Covid. J'étais de garde lundi, j'étais de garde hier. On m'a proposé aucun nouveau cas.
À l'hôpital, mais les cas constatés, quand on fait des tests, ils remontent.
Oui, les cas constatés, le nombre d'hospitalisations.
Pour ce qui est de l'Île-de-France, c'est surveillé, mais comme le lait sur le feu. Ça, c'est vraiment... c'est surveillé. À la fois les appels au SAMU, les interventions en Covid, les patients Covid, etc. Ça ne bouge pas. La courbe reste plate. Donc, on a tout à fait, et vous faites bien de faire des émissions pour parler avec des experts du coronavirus, etc. Mais il ne faut pas avoir peur. Nous ne sommes pas dans la situation du mois de mars.
Non, mais la question, on va revenir sur ce qui se passe en ce moment. Juste, je voulais revenir, Patrick Pelloux, sur le cauchemar qu'ont vécu certains personnels de santé. Est-ce que parmi les urgentistes, il y en a qui passent un été et ils sont en train de réaliser et ça leur tombe dessus, parce qu'ils savent, c'est après l'effort, on se relâche et c'est là.
Ce que tu viens de dire est juste, on a perdu des collègues. Moi, j'ai perdu Éric Loupiac, qui était un ami très proche de Lons-le-Saunier. J'ai perdu Jacques Fribourg, qui s'occupait des urgences de Trappes. Donc, on a perdu...
Du Covid.
Du Covid. On a perdu des directeurs, on a perdu des infirmières, des aides-soignants, on a des collègues qui ont été malades, on en a certains...
On a des collègues qui sont encore en réanimation.
Encore en réanimation. Oui. Donc, le personnel soignant, dans notre chair, dans nos amis, dans nos amitiés, dans nos collègues, on l'a payé cher. Et en effet, c'est tout à fait... On ne veut pas reconnaître cela. C'est une situation de crise, c'est une situation qui, d'autre part, il ne faut pas l'oublier, à l'heure actuelle, on le paye encore parce qu'on est en train de rattraper le retard pour les autres malades des autres pathologies du qui avaient autre chose que le coronavirus parce qu'on a, on a bloqué l'hôpital pour se concentrer là-dessus. Je pense qu'on ne pouvait pas faire autrement. Mais là, à l'heure actuelle, il faut saluer le travail de nos amis chirurgiens, notamment en cancérologie et des anesthésistes qui travaillent tout l'été
pour rattraper les opérations qui n'ont pas été faites au printemps.
Donc, vous voyez, on le paye cher. On le paye cher. Et on ne veut pas recommencer ça.
Alors, face à une circulation soutenue du virus, les autorités multiplient les appels à la vigilance. Nous ne voulons pas revivre un reconfinement, a expliqué le ministre de la Santé, Olivier Véran. Le port du masque est de plus en plus présenté comme le meilleur rempart face aux contaminations, et ce même à l'extérieur. Sujet de Pierre-Millet Bellando, Aubery Perrault et Stéphane Lopez.
Et si c'était là les images de la France du Covid ? Des rues où l'on circule masqué. Une possibilité, si l'on en croit le gouvernement et Olivier Véran, en déplacement dans le Nord hier.
L'Organisation mondiale de la santé reconnaît désormais, depuis quelques jours, un risque sérieux de transmission aérosol du virus, ce qui veut dire que le port du masque, notamment lorsqu'il y a une concentration de personnes, si vous êtes dans une rue où il y a plusieurs personnes qui vont se balader, vous n'êtes pas sûr de pouvoir garder la distance, le port du masque, moi je le recommande. Je le recommande.
Des masques rendus obligatoires en extérieur sur certains axes fréquentés. Certaines villes ont déjà franchi le cap. Caen, Deauville ou ici La Rochelle, où la mairie a jugé que la décision s'imposait.
On s'est rendu compte que même en espace extérieur, le rapprochement et le flux des personnes concouraient à les mettre en danger. Donc sur tout l'espace qui est le plus touristique et le plus peuplé et le plus là où il y a le plus de personnes, on demande le port du masque obligatoire pour que les gens se protègent les uns avec les autres. C'est de la prévention santé.
Une contrainte que semblent accepter les habitants.
Je pense que c'est très bien et la limite, tout le monde devrait faire ça. Enfin, toutes les villes un peu où il y a du monde, surtout là pendant les vacances.
Moi, je suis pour.
Pourquoi ?
Parce que faut prendre des précautions. On n'en prend pas assez peut-être et le virus est en train de se repropager, j'ai l'impression.
Plusieurs indicateurs récents marquent une avancée du coronavirus sur le territoire français. Déjà, 1,4% des tests au virus se révèlent positifs, un chiffre en progression. Augmentation aussi s'agissant des nouvelles contaminations. Rien que pour la journée d'hier, 1392 nouveaux cas. Mais généraliser le port du masque en extérieur est-il pertinent? Chez les scientifiques, il y a débat.
Quand l'air n'est pas renouvelé, au bout d'un moment, vous avez une concentration qui augmente, à ce moment-là, les gens se contaminent. Vous voyez très bien que quand on est à l'air libre, vous avez beaucoup trop de renouvellement d'air pour que cette concentration dans l'air soit suffisante pour vous infecter.
Face au virus, les plus vigilants sont peut-être les EHPAD, où sont morts près de la moitié des victimes du Covid. Certains ont dû reconfiner après des alertes. À l'EHPAD de l'Abbaye en Île-de-France, la vigilance est toujours de mise.
36,2. Vous allez ranger ça sur le registre. Et puis vous vous lavez les mains, s'il vous plaît, après.
Pour Daniel Boulanger et son père Michel, les gestes barrières sont très importants.
Non, ça va. Moi, j'obéis, il y a des mesures à prendre, je les prends.
Mais si, c'est vrai, je pense que tout est fait pour que tout se passe bien.
Donc vous n'êtes pas inquiet?
Non, non. Le risque zéro n'existe nulle part, hein, donc non, je ne suis pas inquiet, non.
Ici, les équipes veillent sans relâche au bon respect des consignes.
Elle n'est pas belle, la vie.
On remonte un peu le masque.
OK.
Voilà. Votre masque, il faut le mettre, s'il vous plaît, dans les couloirs.
Si la direction est aussi ferme, c'est qu'ici, au plus fort de la crise, une dizaine de résidents sont morts du Covid.
C'est vraiment des personnes à santé fragile. Donc, ils n'ont pas la même santé que nous. Donc, c'est vrai qu'on a des résidents qui l'ont eu. C'est très compliqué pour eux. C'est vrai que, voilà, après, c'est de faire attention pour ne pas retomber sur un confinement total à la résidence, parce que ça a été vraiment compliqué pour les résidents.
Plusieurs syndicats des maisons de retraite refusent toutefois un discours alarmiste, estimant que la plupart des structures pour seniors sont désormais équipées pour lutter contre le virus.
Alors, d'abord, on va débriefer, comme on dit le reportage. Carine Lacombe, au vu de... Le maniement du masque, c'est pas encore très bien acquis. Ben, hein.
Oui. Bon, on a bien vu. Je trouve que le reportage illustre très bien les limites du port du masque. Et on le voit très bien, qu'on l'a vu ici, mais on le voit également dans les transports en commun, où beaucoup de personnes portent le masque juste au-dessus des lèvres et laissent le nez à l'air libre. Or, on s'infecte autant par la bouche que par le nez.
Alors, travaux pratiques, ça, c'est pas bien.
Voilà, on transmet autant par la bouche que par le nez. Donc, le port du masque, c'est sur le nez. Ensuite, on ne touche plus son masque.
Alors, justement, le soignant là qui passait de main en main.
C'est compliqué, ça. Il ne faut pas. On installe le masque.
On n'a rien contre lui.
On l'installe une fois et ensuite on ne touche pas. Mais après, c'est très compliqué. D'où ce que l'on disait tout à l'heure, où il faut être assez mesuré. On trouve... Je pense qu'on est assez... on va tout dans le même sens. On sait bien que dans des contextes où la transmission du virus peut être importante, il faut porter le masque. Mais ensuite, il faut justement bien le porter dans ces endroits où on peut transmettre. Par exemple, dans les EHPAD, c'est le cas. Ce sont des espaces qui sont clos, des personnes qui sont très fragiles et qui sont souvent visitées par des personnes beaucoup plus jeunes et soignées, prises en charge par des personnes plus jeunes. Et donc, ils sont plus à risque de transmettre le virus. Donc, si dans ces endroits-là, on ne porte pas bien le masque, effectivement, c'est un vrai problème.
Plus à risque, d'ailleurs, Catherine Hill, quand on est en EHPAD, si on a le virus, ça veut dire, est-ce qu'on a des pourcentages sur les chances, ou la malchance, enfin, comment dire, les risques de se retrouver en hospitalisation?
Les risques de mourir sont beaucoup plus grands si on est plus vieux, et si en plus, si on est en EHPAD, c'est qu'on est non seulement plus vieux, mais pas en particulièrement bon état, donc bien sûr, c'est beaucoup plus dangereux.
Vous avez vu l'article du Monde qui dit qu'au fond, il y a beaucoup de malades en EHPAD dont on n'a même pas pris la peine de les envoyer à l'hôpital,
oui,
parce qu'ils auraient été débordés.
C'est très contesté.
Cet article, ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas vrai.
Mais de toute façon, dans l'idéal, l'objectif, c'est que le virus ne rentre pas dans l'EHPAD. Donc, pour qu'un virus ne rentre pas dans l'EHPAD, il faut tester le personnel régulièrement et essayer de faire rentrer le minimum de visiteurs et que ces visiteurs fassent très, très attention. À l'intérieur de l'EHPAD, normalement, il ne doit pas y avoir de malades. Ces gens-là devraient rester indemnes tout le temps. Donc, alors, il faut s'organiser pour ça.
Question téléspectateur, reconfiner les EHPAD, n'est-ce pas faire mourir les anciens du syndrome de glissement autant que du Covid? Cela n'interpelle personne pour l'interrogation. Non. Je dis ça parce qu'il y a des EHPAD qui, à nouveau, interdisent les visites pour protéger les...
Non, ça n'a rien à voir. Je veux dire, si les gens viennent dans l'EHPAD et si l'EHPAD est doté des masques et des gestes barrières qu'on a expliqués 10 000 fois, d'accord, avec le gel hydroalcoolique, la distanciation, etc., il n'y a pas de raison d'isoler les personnes âgées. C'est une mesure qui avait été prise parce qu'il fallait aller vite et véritablement faire ça. Le problème des EHPAD, il est tout autre. Si vous permettez juste une digression par rapport à la canicule de 2003, où on avait souligné déjà à l'époque le problème sur les EHPAD, depuis, il y a eu X rapports des différentes assemblées pour convenir que les EHPAD manquaient de moyens. L'État a débloqué des moyens sur les EHPAD, et là, nous sommes à nouveau, quelque part, avec des interrogations sur les EHPAD. Et là, lorsqu'il y a un an et demi, le Conseil économique, social et environnemental a fait un rapport qui a été voté à l'unanimité de cette Assemblée sur les moyens à donner aux EHPAD, on n'arrive pas à dire, voilà, il faut augmenter le nombre de personnels. Et d'autre part, en début de crise, on a eu plein de témoignages avec... Alors, il y a les EHPAD privés lucratifs, vous avez les EHPAD qui dépendent des collectivités territoriales, vous avez les EHPAD qui dépendent des hôpitaux, etc. Donc, c'est une mosaïque de structures. Il ne faut pas dire les EHPAD, c'est vraiment quelque chose qui renferme plein de particularités. Et il y a un besoin de personnel et de moyens. Au départ de l'épidémie, on n'avait pas de masques. D'accord. Là, fort heureusement, il y a des tas d'entreprises françaises qui fabriquent des masques, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de masques et pas de protection dans les EHPAD.
Et le gouvernement vient de débloquer d'ailleurs un peu plus de 2 milliards pour les EHPAD. Dans Le Monde, Michel Delaunay, l'ancienne ministre de François Hollande en charge de l'autonomie, a dit « L'isolement en EHPAD a été une erreur, je la cite. Hein. Rester toute la journée dans une chambre qui n'est pas toujours plus grande qu'une cellule et y prendre ses repas face à un mur mène au désespoir. »
Oui, elle n'a pas tort. On sait bien que l'isolement est l'un des facteurs de risque les plus importants d'un état dépressif, d'un syndrome de glissement, c'est-à-dire une personne âgée qui va se laisser glisser petit à petit vers la mort parce qu'elle n'a plus rien qui la tient et qui lui permet d'avancer. Donc effectivement, reconfiner complètement les maisons les EHPAD, ce serait maintenant une erreur. Ça ne l'était pas il y a plusieurs mois, au moment le plus fort de l'épidémie, où on n'avait pas les moyens de prévenir la transmission. Maintenant, on les a. On a le gel alcoolique, le masque. Le masque marche très bien. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'on a un très bon exemple de ce qu'il s'est passé aux États-Unis, où des coiffeuses étaient porteuses du virus, où elles ont porté un masque pendant toute cette période avant qu'elles n'expriment des symptômes, une dizaine de jours. Tous les clients de ces coiffeuses ont été testés. Aucun n'a été contaminé, alors qu'elles étaient dans un espace clos, non ventilé, un contact moins d'un mètre avec les personnes coiffées. Donc en EHPAD, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Si la personne âgée porte son masque et que le personnel porte son masque et qu'en plus on fait des tests réguliers comme l'a suggéré Catherine Hill, il n'y a pas de raison qu'on ait
à
reconfiner une EHPAD pour contenir l'épidémie.
Dès lors qu'on met le masque.
Absolument. C'est bien important. Le masque pour la personne âgée, le masque pour la personne qui s'occupe d'elle ou qui la visite, on se lave les mains et franchement, ça devrait très bien aller.
Jean-Daniel Chiche, est-ce qu'à la rentrée, là, va y avoir tous les élèves? Alors, ça va être pire que les bars, là. On va être 30 par classe dans des... Là, classe, ils vont devoir suivre les cours avec des masques ou bien... Tant pis, allez, dans la jeunesse, le virus circule. Ils auront peut-être une immunité de groupe à la fin, les jeunes. Et puis, on essaye d'organiser une barrière générationnelle avec les aînés.
Alors déjà, je pense que, encore une fois, comme vient de le dire Carina Combe, les masques, on ne les avait pas, on les a. Donc, on a la possibilité de mettre des masques à des élèves qui se retrouvent à 30 élèves par classe dans des espaces clos. Ils comprennent très bien. On peut très bien leur expliquer. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Et il y a de très bonnes raisons que ça se passe bien. Ce d'autant qu'il y a des données. Il y a une étude qui a été publiée par le professeur Cohen qui montre que finalement, c'est des faibles contamineurs, les enfants. C'est pas des contamineurs majeurs, des super contamineurs qui vont globalement expliquer ce qu'on a vu au mois de mars, au mois d'avril, au mois de mai. C'est pas là que ça s'est joué. Hein. Moi, j'ai pas d'énorme inquiétude quant à la capacité à s'organiser pour faire en sorte qu'on puisse avoir une rentrée des classes sereine, avec des élèves qui ont compris comment se laver les mains, qui ont compris quel était le temps du masque, le temps du lavage des mains.
D'ailleurs, pour aller dans votre sens, les enseignants, les maîtresses, les professeurs ont été assez peu contaminés. Enfin, il n'y a pas eu de surcontamination, ce qui est bien la preuve que ce ne sont pas des super contaminateurs, les élèves.
Absolument.
Catherine Hill, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, les tests. Mais les tests, de la vue même de Jean-François Delfraissy, on n'est pas bon sur les tests. Et si vrai que si moi, je me dis, tiens, peut-être que je contamine, je veux un test, je n'aurai le résultat que dans 8 jours. En 8 jours, je vais contaminer. Donc, à quoi ça sert de se tester ?
Dans ce contexte, comme ça, ça ne sert absolument à rien. Voilà.
Ben oui, mais c'est comme clair. Ça que ça se passe aujourd'hui, c'est la réalité.
Alors, c'est une gabegie monstrueuse.
On est
en train de faire n'importe quoi. Il n'y a pas de stratégie de test dans ce pays. Donc, on fait 500 000 tests par semaine, je pense. Et c'est à n'importe qui, les gens ici ou là, pas particulièrement là où il faudrait. Il paraît qu'on teste 2500 personnes par jour en Mayenne. On devrait en tester beaucoup plus, parce qu'il y a un gros foyer là, ça a l'air d'être clair, donc il faudrait tester massivement. Pour mémoire, à Pékin, il y avait 0 cas pendant 45 jours. Ensuite, un jour, il y a eu 1 cas, le lendemain, il y a eu 6 cas, le surlendemain, il y a eu 35 cas. Les Chinois, qui ont quand même contrôlé la maladie d'une façon assez extraordinaire, ils ont dit ça ne va pas, ils ont confiné un quartier, ils ont testé 2 millions.
Le problème, c'est qu'on n'a pas de journaliste pour aller le vérifier.
Mais s'il y avait plein de journalistes qui habitent à Pékin, s'il y avait des tas de morts à Pékin, on le saurait.
D'accord.
Ils ont testé 2 300 000 personnes.
En tous les cas, la stratégie du test, selon vous, qui est pratiquée en Asie, est une stratégie efficace.
Qui contrôle la maladie.
Karine Lacombe, le problème de ce test, c'est qu'il y a quand même de l'attente. En fait, est-ce qu'il ne faudrait pas des tests salivaires pour qu'on puisse massivement tester et que ce soit efficace ?
Ce serait l'idéal parce que c'est plus facile de faire un test salivaire que de faire la petite tige qui va au fond du nez, qui fait d'ailleurs que beaucoup de personnes ne veulent pas se faire dépister.
Parce que ça fait mal.
Parce qu'on dit que ça fait mal. Et c'est vrai que c'est ne pas agréable. On va dire que c'est désagréable. Ça ne fait pas mal, mais ce n'est pas agréable. Donc effectivement, le test salivaire serait l'idéal. Pour l'instant, il n'y a aucun test salivaire qui a la performance, c'est-à-dire la sensibilité, la spécificité du test, pas de faux négatifs, pas de faux positifs, assez bonne pour qu'on puisse utiliser ce type de test. Donc on est obligé, quand on veut faire un test virologique, de passer par l'écouvillon. Alors, j'espère que les techniques vont évoluer et qu'on va avoir un test salivaire qui sera plus facile. Après, là, ça ne va résoudre que la toute première partie qui est ce temps d'attente pour avoir la tige dans le nez, etc. Il y a ensuite derrière toute la partie technique. Comment techniquer ce prélèvement et en obtenir le résultat. Actuellement, on a le résultat en 10 à 48 heures. Quand on a 4 jours d'attente, ce n'est pas normal. Il ne faut pas aller dans ce type de laboratoire parce qu'il y a un problème. C'est un laboratoire qui doit envoyer ses échantillons probablement à l'autre bout de la France. Donc, il y a quand même des laboratoires où on peut avoir des résultats plus rapides.
Pour avoir un rendez-vous, il faut attendre 4 jours.
Non, parfois, on peut aussi attendre 3-4 jours pour avoir le résultat. Alors, attendre 4 jours pour avoir rendez-vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de structures qui sont accessibles pour faire du dépistage. Donc, il faut augmenter ces structures. Évidemment, on est en été. Qu'est-ce que ça veut dire l'été ? Ça veut dire que le personnel, comme tout un chacun, prend aussi des vacances et qu'il y a un moment, on a une limite de ressources humaines. On a des limites techniques, on a des limites de ressources humaines. C'est vrai que c'est un problème.
Une demande majeure.
Et en plus, voilà.
Où tout le monde est en train de se dire, avant de partir en vacances,
ou parce retour que je vais en avoir de vacances.
Besoin. Ça, c'est délétère quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, se faire prélever, ça doit correspondre à une logique médicale ou de santé publique. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, je comprends les pouvoirs publics qu'on dit ceux qui veulent se faire tester peuvent se faire tester. C'est basé un peu sur le volontariat. Je crois que c'est quelque part, c'est maladroit. Parce que justement, vous faites tester. Et par quelle méthode, d'ailleurs, le mardi, mais ça se trouve, vous allez révéler la maladie le mercredi, et après, vous allez... Et si vous voulez, c'est une maladie, c'est pas parce que le lundi, vous allez être négatif, que vous allez être négatif toute votre vie. Parce que vous allez très bien pouvoir l'attraper. Donc, c'est une fausse assurance. Donc, d'un coup, il faut respecter l'analyse médicale qui fait... Et alors, là, du coup, le gouvernement et le ministre de la Santé a voulu étendre les gens qui ont des formations, même très rapides, mais qui peuvent avoir la méthode, la logique pour dire, voilà, on va vous tester, on va déterminer si vous êtes porteur ou si vous êtes malade. Et ça, après, comme vous disiez fort justement, si d'un coup, comme la Mayenne, il y a un groupe, là, ça vaut le coup de se dire, on fait des tests massivement. Donc, ça ne sert à rien de saupoudrer les tests comme ça, en fait. Ça
alors,
sert à rien.
C'est demain oui. que le département du Nord annoncera si, oui ou non, il impose le port du masque à l'extérieur, car le département craint une recrudescence de l'épidémie en raison de sa proximité avec la Belgique. Chez notre voisin, les contaminations sont en forte hausse et donc le pays a sérieusement durci ses mesures. Vous voyez ce reportage à Anvers qui concerne à elle seule la moitié des nouveaux cas du pays. Donc reportage d'Antoine Magnan, Dominique Lemarchand et Julien Launay.
Dans cette ville portuaire du nord de la Belgique, la situation sanitaire devient de plus en plus préoccupante. Anvers concentre près de la moitié des nouveaux cas de Covid dans le pays et l'atmosphère n'est plus la même. Masque obligatoire dans la rue et fréquentation en berne pour cette artère commerçante d'habitude si fréquentée.
Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup moins de monde dans la ville. Les gens portent le masque. C'est une bonne chose. Parce que le coronavirus est à nouveau très présent ici à Anvers.
Les gens, beaucoup les jeunes, bien sûr, ils ont pensé, après, quand ça a été annoncé le déconfinement, que bon, ben, le virus était fini. Et ils se retrouvaient à des 10, 20, 30, 40, 50. Ou... Mais le déconfinement, ça ne voulait pas dire que la maladie était partie. Et ça m'a choqué énormément. Moi, j'ai toujours porté le masque.
Face à une recrudescence de l'épidémie, la Belgique a imposé d'autres restrictions en début de semaine. Par exemple, impossible désormais pour une famille de côtoyer plus de 5 personnes en dehors de ce cercle. À Anvers, avec un millier de cas enregistrés ces derniers jours, des mesures plus draconiennes ont été prises.
Tout d'abord qu'il y a un couvre-feu, ça veut dire que tous les gens doivent être chez eux entre 23h30 et 6h le matin. Donc à ce moment-là, on ne peut pas être dans les rues. On comprend qu'il faut vraiment prendre des mesures dures. Et il vaut mieux prendre-les maintenant pour 4 semaines, qu'avoir des problèmes pendant encore une année ou plus longtemps.
Faire preuve de compréhension. C'est le cas de ses deux frères, attablés à la terrasse d'un bar où la clientèle est soumise à un questionnaire.
Je vais vous demander de registrer dans l'Oreca ici.
Bien sûr.
Votre nom, votre numéro de téléphone, email et l'heure d'arrivée, s'il vous plaît.
Merci, monsieur. Merci beaucoup. Ça change un peu des habitudes. Le système n'est pas partout le même. Ici, on remplit des papiers, mais la ville a aussi fourni un système logiciel, puis en ligne pour registrer ta visite dans un bar ou dans un restaurant. Et comme ça, le gouvernement peut te tracer si c'est nécessaire, s'il y avait quelqu'un avec le virus dans la proximité, quoi.
Seul bémol depuis hier soir, l'instauration de ce couvre-feu qui oblige à boire le dernier verre plutôt que prévu.
À 11h, je dois être fermé et tout ça, donc tout le monde doit rentrer à la maison. C'est fini. Ce sont les nouvelles lois. Donc, c'est comme ça.
Récemment, une cellule spéciale a été mise en place pour effectuer un traçage des personnes infectées.
On a reçu les données de votre médecin généraliste. Il avait demandé de prendre contact avec vous parce que vous étiez très inquiet d'une potentielle contamination au sein de votre société. Donc toute la famille, vous êtes 9, se retrouve en quarantaine depuis une semaine. Et vous êtes tous positifs sauf un.
Ce médecin bénévole vient en aide à ses confrères, totalement débordés par la propagation du virus.
Être sûr que le contact positif ou le malade reste à la maison avec toute sa famille. Et en deuxième place, donc on cherche tous les contacts possibles de la semaine passée avant d'être positif et pour aussi donc visiter et téléphoner tous ces contacts et pour les isoler.
Vigilance accrue en Belgique, où la situation sanitaire des pays voisins est scrutée de près, notamment la France. Les voyageurs au retour des pays de la Loire et de l'Île-de-France sont invités à se faire dépister et à observer une période de quarantaine.
Alors, question téléspectateur. La Belgique n'est-elle pas en train de reconfiner toute la population sans oser appeler les choses par leur nom ? C'est vrai que les mesures sont très strictes en Belgique, Jean-Daniel Chiche. Mariage, pas plus de 10 personnes. Et sinon, chaque foyer ne peut voir que 5 personnes. C'est... Mais on voit personne, quoi.
Ça a peut-être marché en Flandre, ça ne marchera pas en Wallonie.
Oui, ça, oui, les Flandres sont plus disciplinés, c'est la partie nord.
C'est pas exactement la même discipline. Et puis, je crois que quand on regarde les chiffres en Belgique, ce qui est très inquiétant, c'est le nombre de morts par million d'habitants, qui est globalement à peu de choses près le double de ce qu'on a vu en France. Et il y a au moins trois facteurs qui expliquent ça. Le premier, c'est qu'on ne compte pas exactement de la même façon, et qu'effectivement, ils ont compté un certain nombre de suspicions de décès liés au Covid, alors qu'il n'y a pas de preuve que c'était effectivement le Covid.
Donc c'est un peu surévalué, le chiffre.
La deuxième chose, c'est que l'état de santé de la population belge dans certaines parties de la Belgique est particulièrement inquiétant. Vous prenez la Wallonie, le nombre de patients obèses, diabétiques, hypertendus, sans suivi médical, n'est pas très éloigné de ce qu'on a vu dans certains départements parisiens, enfin d'Île-de-France, extrêmement touchés. Et je crois que ça a aussi une influence importante sur le nombre de morts.
D'ailleurs, je vous interromps, vous avez vu, du coup, ça amène des réactions politiques. Boris Johnson a décidé de mener un programme pour une meilleure alimentation et pour réduire l'obésité. C'est parce qu'il a été touché par le Covid. Il a vu que le facteur obésité l'avait menacé.
Boris Johnson.
En tout cas, c'est la bonne réaction. Commencer à se dire que finalement, ce virus-là a eu des effets, une mortalité majeure sur une population dite, entre guillemets, en bonne santé, parce que finalement, on ne le reconnaissait comme comorbidité que de l'hypertension ou que de l'obésité ou que du diabète. Ce sont des maladies, et des maladies importantes, et la prévention a un rôle majeur à jouer là-dessus. Puis la troisième chose, c'est que y a toujours un peu d'hétérogénéité quant à la qualité des soins. Et je voudrais juste pointer du doigt une étude qui a été publiée il n'y a pas très longtemps dans un journal américain, qui rapporte un taux de mortalité en réanimation aux États-Unis autour de 35%, mais avec des variations qui vont de 6 à 80%.
Et ça dépend de l'hôpital ?
Ça dépend du service, de la qualité des soins, de la façon dont, en plus de ça, au moment où vous créez des lits partout parce qu'on en a besoin, et ben vous n'avez pas un lit de réanimation. Ce n'est pas simplement, et je crois que c'est vraiment un truc à comprendre pour le futur, c'est pas simplement un lit, un ventilateur et un moniteur. C'est une équipe.
C'est vraiment très important. Il faut mettre le paquet sur la réanimation médicale. C'est-à-dire qu'on a fermé trop de lits, d'accord ? Ça, on l'a vu avec la crise qu'il y a eu. Et le fameux concept de réanimation éphémère qui a vu le jour, c'est pas aussi simple. Et comme vient de dire...
Vous pouvez nous rappeler d'ailleurs exactement ce que c'est que la réanimation. C'est-à-dire à un moment, on vous met dans un coma artificiel.
La réanimation, c'est la spécialité qui va s'occuper de vous lorsque votre vie est menacée, quelle que soit la maladie qui la menace. Une infection, parce que finalement, le coronavirus, c'est une infection à laquelle l'organisme répond de façon extrêmement violente, avec beaucoup d'inflammation. C'est un truc que, dans notre jargon, on appelle le sepsis. Le sepsis, c'est 47 millions de patients par an. C'est 11 millions de morts dans l'indifférence générale. Et ça se passe souvent avant la réanimation, parce qu'on ne les a pas détectés et que c'est une maladie qu'on ne comprend pas bien. Ça se passe souvent en réanimation, parce que c'est une maladie grave où il y a encore énormément de progrès à faire pour mieux la comprendre et mieux la traiter. Il y a l'effort qu'il y a à faire aujourd'hui autour de la réanimation, c'est le même que l'effort qui a été fait au cours des 30 dernières années sur la cancérologie. Si vous comprenez ça, vous ferez bouger les lignes de la mortalité.
Mais attendez, j'ai toujours pas compris. Que si on me dit, tiens, on va mettre un tel en réanimation, c'est parce qu'il est dans quel état et en quoi la réanimation va améliorer sa situation ?
C'est parce que sa vie est menacée.
Sa vie est menacée.
Ça veut pas dire
qu'est-ce que vous allez lui prodiguer comme soin ?
Eh bien, ça dépend de ce qui menace sa vie et ça dépend des organes qui sont atteints à un moment donné. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de patients qui vont avoir full option, la totalité du show avec la ventilation artificielle.
Donc l'intubation. On vous plonge dans un coma.
Voilà, la dialyse, les médicaments pour remonter votre pression artérielle, les antibiotiques. Il y a des malades qui vont avoir qu'une seule partie de ces traitements-là. On va surveiller ces patients parce que leur vie est menacée, parce que la possibilité que la fonction de leurs organes se dégrade et menace leur vie de façon immédiate est importante. Et aujourd'hui, c'est un enjeu, c'est deux fois par vie. c'est deux fois par vie. Et compte tenu du fait que la population vieillit, que les comorbidités sont importantes, c'est plus 46% d'ici 2030.
Et en avril, en mars-avril, c'est bien ces services de réanimation qui étaient saturés et dont on a manqué et qui ont provoqué le drame qu'on a tous vécu.
Absolument. Voilà. Absolument. En France,
c'est pour ça qu'on a confiné.
Absolument. En France, 11,7 pour 100 000 habitants. En Allemagne, 29,5 pour 100 000 habitants.
Vu par le non-médecin, c'est une défaillance d'un organe essentiel qui nécessite l'arrivée en réanimation. Ça, ça peut dire ça ? C'est quelque chose qui met votre vie en jeu et qui ne fonctionne plus. Alors, ça peut être vos reins, votre cœur, vos poumons et plusieurs de ces machins-là.
Et d'autre part, c'est toute la chaîne. C'est-à-dire, ça part du SAMU et du préhospitalier que nous avons. Et nous travaillons, mais vraiment main dans la main, avec les réanimateurs médicaux. Et c'est donc ce qu'on a souligné, parce qu'on a été auditionné par la commission d'enquête avant-hier à l'Assemblée nationale. On a redit avec le président de la Société de réanimation de langue française, Éric Maury, l'importance, justement, de remettre l'accent et de redévelopper ces réanimations et cette réanimation médicale. On a fermé trop de lits.
D'accord, mais d'ailleurs, le gouvernement s'en est rendu compte, il va rouvrir. Enfin, ça fait des années qu'on en ferme.
Mais là, si vous voulez, c'est, comme tu viens de dire fort justement, on joue sur le vital. On joue sur ce qui fait que, d'un coup, les malades qui sont mis en maladie infectieuse à Saint-Antoine, le service de réanimation de maladie infectieuse de Saint-Antoine tient parce qu'ils ont une super réanimation médicale derrière qui peut les prendre en charge si ça défaille.
Il y a un moment où on quitte le département infectiologie et on va en réanimation.
Bien sûr. Et après, vous retournerez en infectiologie quand vous irez.
On vient tous des pros sur le parcours de soins.
Mais oui.
Bah, c'est un service transversal.
Il faut comprendre.
Il faut comprendre que si vous voulez survivre du cancer à 5 ans, il faut aussi survivre de la complication du cancer qui peut vous emmener en réanimation à 5 semaines. Et là, le cancérologue peut continuer à travailler et vous guérir.
Je voulais juste ajouter par rapport à ce qu'on a dit sur l'obésité, l'hypertension, le diabète. C'est bien beau que Boris Johnson dise on va lutter contre l'obésité, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, c'est des maladies qui touchent la pauvreté. Et donc, si on n'a pas une grande politique, parce que tu citais les conséquences sur la Seine-Saint-Denis, qui a été meurtrie par le coronavirus, ce sont évidemment des départements où la pauvreté est absolument épouvantable. Donc, il n'y aura pas de prévention de l'obésité s'il n'y a pas une prévention de la pauvreté. Et donc, tout est intimement lié. Vous voyez, c'est pas aussi simple, parce qu'après, on peut dire aux gens de manger des légumes et des fruits 5 fois par jour, s'ils n'ont pas les moyens de se les payer, vu de la flambée, d'ailleurs, entre parenthèses, des fruits et légumes en ce moment, d'accord, bah, ils vont bouffer des pizzas, d'accord, ou des kebabs, ce qui posera problème, parce que là, ils grossiront.
Karine Lacombe.
On a bien vu, avec le coronavirus, la fracture en fait, qu'elle a induite dans la société. C'est vraiment le Covid-19, c'est principalement une maladie des pauvres, une maladie de la pauvreté. Et ça a été extrêmement prégnant comme découverte, en fait. Fracture sociale, générationnelle, fracture économique. Il faudra vraiment à l'avenir agir sur toutes ces composantes pour prévenir la mortalité liée à cette maladie.
Maintenant, un espoir. On va terminer sur une note d'espoir. Y aura-t-il un vaccin disponible dès cet automne ? Les premiers résultats sont encourageants, mais les laboratoires, ne vont-ils pas trop vite ? Un Français sur trois, en tous les cas, dit ne pas souhaiter se faire vacciner contre le coronavirus. Sujet de Pierre Barbin, Émilien David et Diane Cacciarella.
Il est l'espoir du monde entier face au coronavirus. Un vaccin présenté comme la solution miracle pour endiguer la pandémie. Face à l'urgence, une course effrénée s'est lancée entre les laboratoires. 4 d'entre eux semblent avoir une longueur d'avance, notamment AstraZeneca.
Le vaccin sera disponible au mois d'octobre et on pourra commencer à vacciner les gens à travers l'Europe au mois d'octobre, novembre.
Mais aussi l'entreprise américaine Moderna.
Si tout se passe bien, pourrait potentiellement être approuvé d'ici la fin de l'année.
Le laboratoire chinois Sinovac est lui aussi dans la dernière phase d'expérimentation du vaccin. Un test de 3 mois effectué au Brésil, l'un des pays les plus touchés par le virus. Face à la crise sanitaire, près de 9000 professionnels de santé se sont portés volontaires.
Ce test va nous permettre sans aucun doute de délivrer ce vaccin à la population brésilienne au meilleur moment. Avec la chance d'être le premier pays au monde à utiliser ce traitement à une large échelle.
Les pays riches prennent les devants et veulent s'assurer un stock de vaccins. Cette semaine, la Grande-Bretagne a conclu un accord avec Sanofi et le groupe GSK pour 60 millions de doses. La France, avec trois autres pays européens, en a, elle, commandé 300 millions à AstraZeneca. En parallèle, les recherches avancent et la phase finale d'expérimentation est imminente.
Nous avons commencé à constituer des cohortes de personnes qui se portent volontaires pour la phase 3. La difficulté pour entrer en phase 3, c'est de recruter suffisamment de volontaires.
Exactement.
Et donc là, nous sommes en avance de phase avec l'identification de milliers de personnes qui accepteraient de se porter volontaires pour tester des vaccins en phase 3.
Mais une fois ces vaccins livrés, qui pourrait en bénéficier ? La Haute Autorité de Santé a déjà ciblé ses priorités.
Les professionnels de santé et du médico-social de première ligne apparaissent comme les populations cibles prioritaires et incontournables. Les personnes à risque de forme grave de Covid-19, âgées de plus de 65 ans ou présentant une comorbidité, seront également des cibles prioritaires.
Mais tous les Français ne sont pas prêts à se faire inoculer un vaccin développé en un temps record. Selon un récent sondage, près d'un tiers d'entre eux n'iraient pas se faire vacciner si un traitement était sur le marché. Une défiance vis-à-vis du monde médical qui n'est pas nouvelle, mais la crise du coronavirus a accentué le phénomène.
Comme on est dans une maladie infectieuse, forcément, ça rejaillit sur la perception des vaccins. Et la deuxième chose, c'est qu'il est beaucoup plus facile dans la vie d'être contre que d'être pour. C'est-à-dire que de trouver des inconvénients à un certain nombre de conduites ou de propositions, c'est assez simple. Comme en plus l'argumentation en général est, et c'est comme ça et c'est pas autrement, il n'y a pas d'argument derrière, ça se répand effectivement par l'intermédiaire de réseaux sociaux dont un certain nombre sont assez malfaisants en plus.
Car sur Internet, les tribunes anti-vaccins se multiplient. Des membres de cette communauté assènent leur vérité et les vidéos sont vues par des centaines de milliers d'internautes.
Si au moment des premières campagnes de vaccination, on a un pic de mortalité, les médias dominants et l'OMS vont attribuer ça à la virulence subite du Covid, alors qu'il se pourrait très bien que ce soit, les dégâts provoqués simplement par un vaccin.
Pour limiter les propos complotistes, les plateformes réagissent. Hier, le réseau social Instagram a bloqué une publication de Madonna. La chanteuse affirmait qu'un vaccin était disponible depuis plusieurs mois, mais qu'il était gardé secret.
Karine Lacombe, d'abord, voilà. Il y a certains laboratoires qui nous promettent des vaccins pour peut-être d'ici la fin de l'année. Il faut les croire ou ils essaient de faire monter leur cours de bourse ?
Alors, moi, je pense que vous savez, pour développer un vaccin très vite et très bien, il faut beaucoup d'argent. Pour le développement d'un vaccin, en général, ça demande entre 5 et 10 ans. On a des étapes indispensables, toutes les étapes précliniques, après les étapes cliniques précoces où on va trouver le dosage et regarder les effets indésirables les plus fréquents, et puis ensuite les effets indésirables un peu moins fréquents et l'efficacité, et puis ensuite, sur une population beaucoup plus grande, c'est ce qu'on appelle les essais de phase 3, où là, on regarde vraiment l'efficacité, et puis les effets indésirables qui sont moins fréquents. Eh bien, ces essais de phase 3, ça demande du temps.
Mais là, il y en a qui entrent en phase 3.
Donc le développement d'un vaccin prend du temps. Si on veut raccourcir ces étapes, et en particulier cette phase 3, il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Pour lever des fonds, il faut évidemment que les laboratoires donnent des gages et disent ben « voilà, mon vaccin, ça marche ». Alors, ils ne disent pas que ça marche alors que ça ne marche pas. Ils ont des données précliniques et cliniques précoces qui montrent qu'il y a une réponse immunitaire quand on vaccine des personnes volontaires. Maintenant, montrer que le vaccin marche sur un grand nombre de personnes, il faut beaucoup d'argent pour le faire sur un laps de temps assez raccourci. Et donc, ils sont en plein appel de fonds. Alors, on espère que ça va marcher. Le problème, c'est qu'il y a une étape extrêmement importante qu'il ne faut pas rater, c'est l'étape de l'innocuité. Parce que ça, si jamais on va trop rapidement sur cette étape de preuve de l'innocuité du vaccin, on va assassiner le vaccin. Et on a déjà, là vous l'avez bien montré dans le reportage, 32% de la population générale qui actuellement dit « moi je ne veux pas me faire vacciner ». Si en plus on a des effets indésirables qu'on commence à voir émerger quand on va vacciner un très grand nombre de personnes, vous vous rendez compte, ça va être terrible. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre le temps de montrer que le vaccin est vraiment sans danger pour le plus grand nombre d'entre nous. Donc, Voilà, on ne brûle pas les étapes avec un vaccin qui, en plus, a un impact de santé publique aussi important.
Patrick Peloux, un médicament, ça a toujours des effets secondaires. Donc, faut-il craindre les effets secondaires du futur vaccin, surtout si, au nom de la rapidité, on escamote et on est incapable de regarder les effets secondaires à un an?
Non, il ne faut pas craindre si, justement, comme vient de dire Karine Lacombe, si tout le processus de création du vaccin est respecté. Il faut faire confiance à la science. La science, ce n'est pas des gourous d'une secte qui sont en train de bricoler dans un garage avec des éprouvettes. Ce n'est pas ça. Vous avez des scientifiques qui travaillent là-dessus. Il faut faire confiance. Donc à partir du moment où, et ça je pense qu'il faut faire, les autorités françaises mettront en vente ce vaccin, on aura en effet des preuves que bien, vous pouvez vous faire vacciner sans risque. Alors évidemment, les anti-vaccins vont arriver parce que nous sommes un pays démocratique et où la liberté de pensée et d'opinion est respectée. Mais il ne faut pas justement porter le flanc à ceux qui discréditeraient ce vaccin si on ne respecte pas toutes les étapes qu'il faut que le vaccin va arriver. Et moi, je pense que ce vaccin, il va arriver. Je pense qu'on va arriver à avoir ce vaccin.
2021, c'est possible.
Mais je ne sais pas. Je ne suis pas.
Qu'est-ce qui vous rend confiance sur le fait qu'on aura un vaccin? Parce qu'il y a des gens qui disent peut-être qu'on aura un vaccin, d'ailleurs, qui ne marchera pas très bien, ou qui sera saisonnier.
Il y a deux raisons. Tout le monde le cherche, et c'est quelque part, c'est un des critères de survie de l'humanité. Donc je pense que là, les politiques mettent la pression sur les laboratoires pour qu'il y ait le vaccin. Deuxièmement, économique. Deuxièmement, économique. C'est-à-dire que d'un coup, celui qui aura le vaccin, je peux vous dire qu'il va.
Mais il y a des maladies contre lesquels on ne trouve pas de vaccin.
On cherche toujours, vous parlez du sida. Voilà, on cherche sida. Toujours, on cherche toujours. Oui. Je ne sais pas quand, mais on l'aura un jour, vous verrez.
Ah oui? Non, mais il faut qu'il y ait une immunité qui se crée, oui.
Mais bien sûr, mais c'est toute la stratégie de trouver le vaccin.
Catherine, comment expliquer qu'un Français sur trois dit ne pas souhaiter vouloir se faire vacciner? Moi, je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas un parallèle? Maintenant, c'est le retour du bio, du naturel. On veut sortir de la science dure, performante, productiviste du XXe siècle. Eh ben, c'est la même chose en médecine. C'est comme pour l'alimentaire. On veut un retour au naturel et au bio.
Ça, je peux dire, je les vois aux urgences, ceux qui sont repartis sur le naturel. La fartus soignée à la verveine menthe, ça ne marche pas.
La ciguë, c'est naturel. Il y a plein de choses naturelles qui sont très, très dangereuses. Et quand même, il y a des quantités de vaccins qui font que l'espérance de vie est on a aujourd'hui dépassé 80 ans et tout ça, parce qu'on n'a plus d'épidémie de variole, de méningite de je ne sais pas quoi.
Donc vous écouteriez vaccin en vaccin obligatoire?
Bon, obligatoire, pas obligatoire, ça, c'est une autre question. En tout cas, il faut que le vaccin soit sûr, parce que la propriété d'un vaccin, c'est qu'on s'adresse, on le met dans une personne qui n'est pas malade. Donc, pour le protéger d'un risque éventuel. Donc, c'est pour ça que la sécurité des vaccins est une question essentielle. Et donc, on fait très, très attention. Il faut faire des études. Et en plus, après, il faut surveiller, parce qu'il peut y avoir des effets très, très rares qu'on découvre plus tardivement.
Ça vous lamente qu'au pays de Pasteur, un Français sur trois se méfie des vaccins?
Il y en a qui croient que la Terre est plate.
Oui, mais il n'y en a pas un sur trois, hein.
Ah, il paraît qu'il y en a beaucoup. On s'attend à tout et n'importe quoi. Il faut expliquer.
Attendez, on n'entre pas dans ce débat. Jean-Daniel Chiche, qui vacciner en premier? Envoyer dans les recommandations le personnel hospitalier?
Les personnes à risque et le personnel hospitalier.
Mais en aura-t-il pour tout le monde? Ça va être la course, comment on va faire? C'est dans les films de science-fiction.
Non, écoutez, franchement, je pense que ce n'est pas un sujet.
Il n'y en aura pas un sujet.
Il y a tellement d'efforts. Il faut voir à quelle vitesse ça a été, cette histoire-là.
C'est incroyable.
Séquencer le virus, isoler la partie potentiellement la plus immunogène du virus et lancer toute cette campagne de recherche d'un vaccin international avec une énorme compétition, le premier qui va trouver va se retrouver sous une pression majeure pour effectivement en produire suffisamment pour qu'on puisse en distribuer à toutes les personnes à risque, effectivement.
On va regarder, il y a des noms qui circulent sur les laboratoires les plus avancés. Il y a Moderna, qui est dirigé d'ailleurs par un laboratoire américain, mais dirigé par un Français, Stéphane Bancel. AstraZeneca, laboratoire européen, dirigé par un Français. Non, mais c'est pas mal, d'ailleurs.
La R&D et les personnes issues de la R&D françaises sont très bons. On a un problème de manufacturing en France. On n'a pas un problème de matière grise.
Et Sanofi, parce que là, pour le coup, c'est un laboratoire français. Est-ce qu'ils collaborent entre eux au nom de l'humanité ou bien non, c'est compétition maximale. Et d'ailleurs, souvent, la compétition est, vous pousse à donner le meilleur de vous-même.
Oui, mais je pense qu'il y a les deux. Après, il faut qu'il y ait de la compétition, il faut qu'il y ait de l'argent. Et puis après, il faut qu'il y ait des gens qui régulent tout ça et qui fassent en sorte qu'un bien comme un vaccin soit un bien de l'humanité. Le vaccin, c'est aussi quelque chose d'altruiste. Et on ne garde pas un vaccin pour soi, on le partage avec les autres. Et nous, on sera là. Les scientifiques français, les scientifiques européens, on sera là pour faire en sorte que tout le monde puisse en profiter. Alors, pas que nous, les scientifiques, mais nous, avec nos gouvernants. Et je pense que la position de l'État français a été très altruiste depuis le début, en disant avec tous les gouvernements européens, on fera en sorte que les pays du Sud, avec lesquels on collabore, avec lesquels on a des relations d'échange et d'amitié, en profitent autant que les Anglais, les Américains ou n'importe qui voudrait s'arroger le vaccin pour lui, pour sa population. C'est un bien de l'humanité, je pense. Si on trouve ce vaccin, c'est un bien de l'humanité.
Enfin, il y aura quand même une liste d'attente, Pascal Pouliou.
Oui, non, mais
on ne va pas arriver du jour au lendemain avec des centaines de millions de doses.
Mais ça sera progressif. Ce qu'on dit là, c'est juste une question de bon sens. On a identifié les populations à risque. C'est eux qui bénéficieront du vaccin en premier. Il y aura une logique. Il y aura une logique. Vous voyez, là, à l'heure actuelle, ça ne sert à rien de lancer des hypothèses ou des plans sur la comète. Pour l'instant, il n'y a pas le vaccin.
D'accord, il y en aura peut-être plusieurs.
On a plus
il y en aura peut-être plusieurs. Plus. Ben, bien sûr.
Très différentes.
Bien sûr. Bien sûr.
La science progresse d'ailleurs, hein, puisque maintenant on parle de vaccins mais, avec technique de l'ARN. On sera bientôt des spécialistes.
C'est très important ce que vous dites, parce qu'on n'a pas le niveau de connaissance. Oui. D'accord, quand les Chinois nous envoyaient des brides d'orientation scientifique qui étaient plus que moins le quart, d'accord, là on n'est pas du tout dans le même schéma que le mois de février et de mars, quand d'un coup on avait des malades qu'on prenait en charge, on ne comprenait pas. Ils avaient des saturations en oxygène qui étaient catastrophiques et cliniquement, ils tenaient encore et ils arrivaient à parler. On ne comprenait pas. Maintenant, on a progressé dans le niveau.
Ils avaient beaucoup d'oxygène dans le sang.
Très peu.
Très peu.
Très peu. Et ils arrivaient et on ne comprenait pas. Après, il fallait énormément de produits pour les calmer et pour les ventiler. Ça a été compliqué. Le niveau qu'on a maintenant, fin juillet, ce n'est pas le niveau scientifique et de connaissances médicales qu'on avait au mois de mars. Donc ça, c'est rassurant. On a énormément progressé sur cette maladie.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Oui, voilà une question à laquelle vous n'avez pas tout à fait répondu, qui est bien posée. Est-on sûr qu'il n'y aura pas de vaccin d'ici la fin de l'année?
Ah non, on n'est pas sûr.
Dans l'autre sens. Ah, est-ce qu'il peut y avoir la bonne nouvelle?
Bien sûr.
Un procédé...
Toujours un miracle.
Ah, bien sûr.
Mais ça veut dire un test sur beaucoup de gens. Un essai de phase 3, donc beaucoup de gens.
Il y en a qui sont en phase 3, celui de Moderna.
Tirés au sort entre un placebo en faisant semblant et le vaccin. Et il faut que dans ces deux groupes, il y ait suffisamment de gens qui ont attrapé le Covid dans le groupe témoin pour que ça fasse une différence avec le groupe vacciné. Donc, quand même, le virus, il n'est pas si fréquent que ça. Donc, si vous vaccinez aujourd'hui 10 000 personnes en France et vous attendez 2 mois, combien de gens vont développer le Covid? C'est une information qui nous manque d'ailleurs. On n'a pas ces données pour la France et on a besoin de ça pour savoir s'il faut faire un essai sur 10 000 personnes ou sur 100 000 personnes.
Quelle est la... Ah pardon, Karine Lacombe.
Non, je voulais juste dire que dans le reportage, on a vu la campagne vaccinale, enfin l'essai vaccinal qui avait lieu au Brésil. C'est évident que c'est dans des pays où il y a une forte incidence du coronavirus qu'il faut faire les essais vaccinaux.
Absolument.
Donc le Brésil, probablement les États-Unis, en Europe, en France,
c'est
très compliqué.
Ce serait très long.
Et une très grande pauvreté au Brésil.
Quelle est la moyenne d'âge des malades hospitalisés en ce moment? Évidemment, on sait que l'âge moyen des gens qui attrapent le virus baisse, puisqu'on dit beaucoup que ce sont les jeunes de 20 à 30 ans, d'ailleurs, je crois que c'est là où ça progresse.
L'âge moyen des dont on sait qu'ils ont attrapé le virus baisse. C'est juste, si on teste plus de jeunes, l'âge moyen des gens qu'on voit avec le virus, mais on ne sait pas s'il y a des plus âgés qui ne sont pas testés. On a une très mauvaise connaissance.
Faut-il inhaler un nombre minimum de particules virales pour être contaminé ou bien une seule suffit pour être infecté?
Encore une fois, l'infection, c'est la rencontre entre un pathogène, donc un virus, une bactérie, et un autre. Et il y a parfois aussi une inégalité à ce niveau-là. Je peux faire référence à une famille où il y a eu 4 décès dans la même famille, y compris des gens jeunes, Et ça, ce n'est pas la faute à pas de chance. C'est que vous avez une susceptibilité génétique à développer une réaction extrêmement violente lorsque vous avez cette infection. Peut-être que ces personnes-là se défendront moins bien contre ce type d'infection. Pour le reste, on l'a bien vu dans un de vos reportages, il faut qu'il y ait quand même un peu de virus, un peu de particules virales pour que ces particules virales vous infectent, passent le premier système de défense, parce qu'on a un premier système de défense qui est très peu spécifique, hein, qui ne fait pas la différence entre le coronavirus et un autre virus, mais qui sait juste que ça, c'est un virus et que ça veut globalement se débarrasser de vous et qui va faire un peu le ménage. Donc, il faut dépasser cette première barrière de défense. Et pour ça, il faut quand même un certain nombre de particules.
Et Jean-Daniel Chiche, à l'instant, là, vous faisiez remarquer, dans les facteurs de risque, on sait qu'il y a l'âge, on sait qu'il y a l'hypertension, on sait qu'il y a l'obésité. Est-ce qu'il y a aussi la génétique? Il y a des gens qui sont en pleine forme, qui sont des grands sportifs de 50 ans,
bien sûr,
et qui vont être très gravement, voire fatalement touchés par le virus.
C'est absolument possible, bien sûr.
Mais on ne sait pas.
Et on ne sait pas pourquoi.
On sait qu'il y a des prédispositions génétiques aux infections graves. Ça a été montré pour les infections bactériennes, ça a été montré pour les infections virales. Il y a des gens qui font des infections gravissimes alors qu'ils sont infectés par des agents qui sont peu pathogènes ou quand nos collègues infectiologues évaluent la virulence de ces bactéries, par exemple, ils disent ça c'est un truc pas virulent. Oui, c'est pas virulent chez vous et chez moi, mais chez une personne qui a... une variation génétique, je ne parle pas de mutation, une variation génétique fait qu'elle ne reconnaît pas bien le virus ou elle en fait une réaction particulièrement violente. Exactement.
J'ai eu le Covid. Pourquoi ne puis-je pas être libéré du masque, Karine Lacombe? N'est-on pas immunisé quand on le met?
Ça, c'est une très bonne question. En fait, pour l'instant, on ne connaît pas vraiment la durée des anticorps neutralisants que l'on acquiert après avoir guéri de la Covid. On a des données qui montreraient que certaines personnes vont développer des anticorps à une quantité importante, d'autres beaucoup moins, et chez certaines personnes, ces anticorps diminuent dans le temps et vont jusqu'à disparaître. Une fois que ces anticorps ont disparu, ce qu'on ne sait pas encore, parce qu'on n'a pas assez de recul par rapport au début de l'épidémie, on ne sait pas encore si on peut rattraper le virus une deuxième fois parce que les anticorps ont disparu, ou alors si on est en contact avec le virus, même sans anticorps, on aurait une espèce de réponse mémoire qui nous empêcherait de retomber malade. Donc on a encore tout un domaine d'incertitude autour de la possibilité ou pas de se réinfecter. C'est pour ça qu'il vaut mieux garder le masque.
Est-ce que ce fait que chez certains les anticorps finissent par disparaître, c'est pas inquiétant quant à la réalisation d'un vaccin?
C'est pour ça que quelqu'un qui vous dit avant Noël 2020, nous avons un vaccin, eh bien, je pense que cette personne ment. C'est là aussi la pensée magique. Non, on ne sait pas. On espère tous, mais on ne sait pas.
Serons-nous en droit de nous opposer à une vaccination contre le Covid-19?
Ça, tout dépend de ce que décidera le gouvernement. Oui.
Et il y a des vaccins obligatoires aujourd'hui.
Mais heureusement,
on va chercher les gens, on va les chercher.
Mais heureusement, Manu Militari. Regardez les images ou les photos très anciennes du 19e siècle où vous voyez les gens tout déformés, tout malades, avec le tétanos, la poliomyélite, etc. C'était ça la réalité. Les maladies infectieuses, ça a été un progrès considérable pour l'histoire de l'humanité. Et vivement, quand d'un coup vous avez des informations positives pour dire on va trouver un vaccin contre le palu, c'est formidable. Quand on vous dit on va perfectionner le vaccin contre la tuberculose, c'est formidable. On va sans doute.
Et comment vous l'expliquez alors? Ça monte là, ce courant anti-vaccin? Et si
ça, faut demander à ces anthropologues. Je
suis pas sûr que ça monte. On a tout le temps eu.
Ils savent très bien parler et s'agiter. Ça, ils sont très forts pour s'agiter sur
les réseaux sociaux.
Et là, on va se faire insulter sur Twitter. Ça, je vous assure, ça c'est sûr ce soir. Ça, c'est évident. Parce que d'un coup, on va être traité de collabo, de tout ce que vous voulez, etc. Moi, je suis désolé. Regardez l'état de la mortalité, de la situation des Françaises et des Français avant les découvertes du vaccin et maintenant, il n'y a pas photo.
Quid du risque de contamination par les yeux? S'il faut mettre le masque sur les yeux...
Alors c'est vrai, on a eu des cas de personnes contaminées avec des énormes conjonctivites et qui se sont avérées avoir des tests positifs au SARS-CoV-2. Donc oui, on peut transmettre, on peut être infecté par les yeux. Attention, on retombe sur cette interaction hôte et pathogène et la quantité de virus nécessaire pour être infecté par les yeux. Par exemple, nous, quand on a un patient hospitalisé qui sécrète énormément de virus, on met les lunettes quand on va le voir dans la chambre. On a le masque, en plus le masque FFP2, les lunettes, les gants, la surblouse, etc., etc. Parce qu'il y a des cas de contamination. Voilà.
Mais avec il faudrait mettre des lunettes pour bien faire ou bien les yeux sont une porte d'entrée quand même beaucoup plus compliquée.
Non, c'est beaucoup plus... Le risque est très, très, très faible, voire en population générale, complètement négligeable. Moi, ce dont je vous parlais quand on porte des lunettes, c'est vraiment en hospitalisation avec des patients qui sont très sécréteurs.
Et beaucoup d'aérosolisation.
Beaucoup d'aérosolisation voilà, dans les espaces fermés.
Ça veut dire que vous êtes effectivement dans un espace clos, que vous avez un patient qui est sous respiration artificielle, par exemple, non-invasive avec un masque, et qu'il y a un certain nombre de particules qui peuvent se retrouver en grande quantité autour du patient.
D'accord. On parle toujours de la recherche sur le vaccin, mais où en est-on de la recherche sur le traitement qui soignerait l'épidémie?
Alors, très Catherine bonne question.
Hill. Et très bonne réponse, ce que vous allez faire.
Alors, je ne sais pas, mais enfin, finalement, en France, on a fait des tas de petits essais qui se sont un peu perdus dans les sables. Les Anglais ont fait un très grand essai.
Catherine, vous êtes dure. Non, vous êtes très
dure. Quand même, les Anglais ont fait un très grand essai où ils ont mis plus de 2000 patients dans plusieurs traitements expérimentaux, dont la dexaméthasone, l'association lopinavir-ritonavir, et j'ai oublié les autres.
Il y a les médicaments qui permettent de...
Et 4000 témoins. Et pour l'instant, ils ont sorti les résultats de l'hydroxychloroquine en disant que ça ne marchait pas, et les résultats de dexaméthasone en disant que ça marchait dans les cas graves, et pas les autres. Donc on peut penser que pour les autres, ça ne marche pas vraiment, parce que sinon, ils l'auraient dit, ça marche ni oui ni non. Ça ne fait probablement pas grand-chose. Donc on n'a pas grand-chose, en fait, comme traitement, à part la dexaméthasone aujourd'hui.
Si je peux rajouter un mot,
bien sûr.
Quand même, on n'a pas grand-chose encore en termes de traitement, on n'a aucun traitement dont on peut dire c'est le traitement miracle, ça va nous sauver. En revanche, on a énormément amélioré notre prise en charge.
Ah oui,
je pense que mon collègue pourra peut-être mieux en parler que moi. L'anticoagulation curative... Ça a vraiment changé la donne. La ventilation, et surtout le type de ventilation, on sait qu'il faut moins intuber les patients, mais leur faire peut-être, sans être intubé, plus de décubitus ventral. Mais je pense que vous pouvez mieux en parler que moi. Prise en charge améliorée.
Aujourd'hui, la qualité du traitement symptomatique et la prévention des complications, c'est un point majeur.
Ça change tout.
C'est cette bonne nouvelle que se termine. Il y avait une dernière question sur le masque sous une pluie battante pour cet automne. Est-ce qu'il est aussi efficace?
Restez chez vous.
Restera chez soi confiné.
Prenez un parapluie. Voilà.
Merci d'avoir participé, d'avoir suivi cette émission qui est rediffusée ce soir à 22h40. Vous restez sur France 5. Bonne soirée et à demain.